13h13. Je vous rappelle que ce soir, avec Audrey, on prend le contrôle des ondes de 19h jusqu'à peut-être 2h du matin, si Audrey est bonne. Non? On ouvre la switch, comme on dit, on jase avec les auditeurs, on jase avec les collaborateurs. On se fait un genre de Marceau le soir, mais version on sait plus trop à quelle heure qu'on va finir. Donc, soyez là de 19h jusqu'à minuit ou 2h du matin. On va être sur toutes les plateformes, donc sur le 102.1, on va être sur Internet, bien entendu, sur Twitch. Puis Audrey a dit qu'elle allait nous mettre sur TikTok aussi.
Oh, un live TikTok.
Oui, j'ai hâte d'avoir la tête de mes gars quand ils vont me voir travailler sur le TikTok.
Parce qu'ils savent pas, hein, que tu passes la nuit à radio.
Non, ils savent pas. Ils savent pas.
Ils vont peut-être l'avoir là.
Ils vont l'apprendre, d'après moi. Mathieu Thomassin, salut!
Hey, bon midi à mes animateurs préférés, mais aussi à tous les auditeurs.
T'es le meilleur chroniqueur automobile que j'ai eu cette semaine.
Bon, parle-moi de ça. Le seul, probablement, aussi. Hein?
Aussi, aussi. On parle du salon de l'auto de New York. Y a-tu des grosses nouveautés?
Bien, tu le sais que la moyenne des salons de l'auto tirait un peu de la patte quand ça venait le temps d'annoncer des nouveautés exceptionnelles. Mais il ne faut pas oublier que le salon de l'auto de New York, c'est un des plus vieux. On parle de 125 ans d'histoire. C'est quand même intéressant parce qu'ils ont fait une genre de petite pièce de monnaie commémorative. Donc, quand tu achètes ton billet, tu as quand même un souvenir relié à ça. Ils vont même, avant même de parler des nouveautés, des lancements, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un endroit et on a placé une voiture par décennie qui montre quand même l'histoire automobile et comment ça a évolué. Mais c'est sûr que si on regarde qu'est-ce qui a été lancé dernièrement, il y a quand même eu un grand vol, encore une fois, des Coréens, parce qu'on dirait que leur présence dans les salons de l'auto, je ne sais pas si leur motto est de shaker l'industrie américaine, mais une chose est sûre, chaque fois qu'il y a un salon, il y a tout le temps de quoi d'intéressant avec eux. Et quand je parle de Coréens, je parle bien entendu de Kia et Hyundai. Et on n'oublie pas non plus Subaru, qui a quand même fait un lancement assez exceptionnel d'une version un peu révisée de la Outback, mais en version purement électrique. Et là, pour ceux qui sont des fans de l'automobile à motorisation régulière, bien, devinez quoi, de plus en plus de véhicules qui sont lancés apparaissent bel et bien encore électriques, malgré un peu ce qui se passe avec tout le brouhaha, voire même la baisse de popularité que ça a connue. Donc, c'est quand même assez fort de ce côté-là.
Est-ce que ça prend les générations de voitures, là, exemple, je sais pas moi, on prend un modèle, mettons le Honda Civic, là, on garde le même frame pendant combien d'années en moyenne? C'est-tu la même chose pour toute l'industrie?
C'est vraiment pas pour toutes les mêmes de l'industrie. On sait que les Japonais vont être extrêmement conservateurs. On a vu des véhicules qui n'ont pas changé en dedans de 10 ans. Comme il y en a que ça a même atteint presque, on s'entend, là, ça a presque atteint 15 ans avant de changer certains modèles. Cependant, c'est un peu comme la technologie d'aujourd'hui, c'est un peu comme les iPhones. Hein? Les gens veulent tout le temps le nouveau modèle et sont toujours séduits par ceux-là aussi. Et c'est un peu ce qu'on s'est rendu compte au travers du temps, c'est qu'il y avait une accélération au niveau du changement des produits pour renouveler. Mais je te dirais que nos amis coréens, là, eux autres, sont pas mal l'exemple à suivre. Disons qu'aux 4 ans, hein, il y a un changement soit esthétique du véhicule ou encore un changement complet. Et ça, je me demande comment ils réussissent à maintenir le cap, parce qu'on sait qu'une plateforme de nouvelle voiture, c'est des milliards de dollars à développer.
Ah oui.
Et avant même qu'on se rende là, sur la route, là, comme on dit. Là.
Je regardais le salon de l'auto de New York, là, ça fait 125 ans. Ça fait 120, c'est le 125e salon de New York, c'est malade.
Ben oui, c'est complètement malade. Puis tu sais, je te dirais que c'est quand même intéressant de voir toute cette histoire-là et de voir que ça perdure et de voir que ça continue. Si tu me permets, on va aborder un petit peu les modèles nouveaux qui ont sorti.
Ben oui.
Quelque chose qui frappe le côté design que je n'étais pas très sûr en la voyant, c'est vraiment la nouvelle berline électrique, la Kia EV4 pour celle-ci, qui va arriver chez nous en début d'année 2026. Et là, l'effort, il est ce dont je vous parle depuis longtemps pour Kia, c'est-à-dire de rendre les véhicules électriques abordables pour tous. Et là, on commence, d'après moi, à avoir une nouvelle ère. Où est-ce que ces véhicules-là vont être rendus dans un prix quand même assez abordable?
Autour de combien, Mathieu?
Comment?
Autour de combien abordable pour toi?
Bon, là, c'est sûr qu'il faut faire attention. C'était le lancement, disons, au salon de l'auto. Mais il faut faire attention, je n'ai pas tous les prix qui sont annoncés présentement. J'ai quand même plusieurs versions qui sont au menu. Mais d'après moi, si on veut avoir un succès avec, disons, le modèle qu'on appelle light, à traction, à autonomie standard, il faut viser sous la barre des 40 000 $ pour arriver à être compétitif et arriver à suivre le fameux modo là, qu'on parlait présentement.
Pour un 100%
Et
électrique?
oui, ça va être 100% électrique de ce côté-là. Et je vais être franc avec toi, quand j'ai fait des voyages dernièrement avec Hyundai ou Kia, ils sondaient le terrain des journalistes. Qu'est-ce que vous pensez d'un petit véhicule traction uniquement qui pourrait être abordable sous le prix des 30 000 $ électrique purement? Pensez-vous que le marché des plus petites voitures pourrait avoir un intérêt pour le Québec ou encore pour le Canada? Et ça commençait à me dire qu'il est en train de sonder. Mais si vous regardez le design de la nouvelle EV4, c'est un langage visuel qui est assez similaire avec ce qu'on a vu des véhicules lancés récemment, soit le V6 puis le V9. Les phares verticaux, je ne sais pas si ça plaît à tout le monde, mais bon, moi, je trouve que ça se différencie quand même beaucoup. Et c'est l'intérieur que là, je commence à trouver qu'il y a beaucoup de ressemblances, disons, voire même avec une Kia K4, où est-ce qu'on utilise vraiment les deux écrans de 12,3 pouces. Mais l'autonomie risque d'être intéressante, de 378 à 531 km d'autonomie. Là, on commence à jaser vraiment d'un territoire très compétitif à Tesla.
Vraiment, vraiment. Est-ce que tu es toujours à l'essai de ton Palisade, du Hyundai Palisade?
En fait, ce n'est pas que j'ai fait un essai, c'est que je suis allé du côté de l'Ontario,
Ouais.
dans les bureaux de Hyundai, avant le salon de l'auto de New York, pour le voir, pour prendre place à bord, pour le toucher, mais pas nécessairement le rouler. Donc, on a quand même fait un lancement très gros du côté de Hyundai, justement de ce nouveau Palisade-là, le modèle 2026. Et le gros changement majeur, c'est quoi? C'est qu'il gagne une version qui est hybride avec une motorisation 2,5 litres turbo. Et il va avoir un modèle XRT Pro. Là, on ajoute la mention Pro. Là, quand je le ai challengé à lui dire, ben là, vous avez quand même Pro 4X de Nissan, vous avez TRD Pro, vous avez d'autres mentions Pro au travers de tout ça. Et on me dit, ben on veut vraiment être sérieux. Oui, ça ressemble un peu. J'ai dit, bon, ben parfait, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous du véhicule? Mais la version est quand même intéressante avec des crochets de remorquage en avant si jamais on s'embourbe un petit peu loin. Une surélévation de la garde au sol, des angles d'attaque plus agressifs. Au lieu d'aller avec des 22 pouces puis des pneus un petit peu plus agressifs en disant que c'est hors route, on a vraiment réduit la dimension de la jante à 18 pouces et on a muni le tout d'un pneu qui est quand même beaucoup plus agressif. Et là où est-ce qu'on va venir jouer quelque chose que je m'y attendais pas, c'est qu'on a vraiment rajouté un verrouilleur de différentiel à l'arrière de manière électronique, bien entendu, qui va permettre, lorsqu'on passe dans des modes de route un peu plus agressifs, d'avoir une traction à la hauteur d'une camionnette ou d'un véhicule beaucoup plus agressif. Et surprise, on n'a pas délaissé le V6 comme on m'avait dit au travers du temps. On l'a gardé à l'intérieur de la gamme, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même eu du changement. On est avec une motorisation de 3,5 litres là, pour celle-ci. Et on a un V6 qui développe 329 chevaux et 339 livres-pieds de couple. Pour une grosse boîte comme ça, c'est quand même assez intéressant aussi au travers de tout ça. C'est pas tout à fait le même moteur 3,8 litres qu'on utilisait dans le temps. C'est une version qui est un peu plus similaire à la Kia Carnival et c'est un moteur qui, bon, a quand même un bon punch. Et je dois avouer que je déteste pas le look, mais il y en a qui sont pas friands des lumières, là, vraiment le prolonger à l'avant. Toutes ces lumières blanches-là dans la calandre vont s'illuminer aussi aux couleurs jaunes quand on applique le clignotant. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous manquez le clignotant d'un Hyundai Palisade, c'est parce que vous êtes aveugle.
OK. Est-ce que je peux, pardonne-moi Pascal, est-ce que je peux tirer pas pire avec ça? Mettons une grosse remorque, mettons un 5 000 livres peut-être?
Oui, bien,
Mais
au niveau
qu'est-ce que
du
tu veux tirer,
remorquage.
mettons?
Non, mais dans le sens où, tu sais, on pose des questions assez
Ben,
pertinentes ici, là.
oui.
5 000 livres, c'est-tu trop pour un palissade?
Bon, en partant au niveau du remorquage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté tout ce qui est l'attaque remorque de série. Le modèle V6, qui est un peu moins puissant que le hybride, va être capable de toujours tirer 5 000 livres, ce qui est quand même la norme dans un véhicule. En passant, là, il a de l'air énorme, mais il conserve son titre dans une classe qu'on peut appeler de multisegment ou encore de véhicule sport utilitaire intermédiaire.
Fait que t'es en train
Et
de dire que
si
ça peut autant durer que mon ancien éco-hatchback, là.
Ben, écoute, c'est pas. Ben, 5 000 livres avec ton Echo Hatchback, t'as la route, mais t'es ça où, ton skidoo sur le toit, ou ben quoi?
Puis il faut pas que t'embarques dedans.
Non, pas là, ça commence à être inquiétant, là. Tu sais, un Echo Hatchback, c'est 750 livres en passant, puis ça, c'était un attache remorque qui avait genre 2 mm par 2 mm, là. C'est pas fait pour remorquer, c'est quoi cette histoire-là?
On te demanderait de sortir, de mettre ta voiture sur le neutre, de pousser derrière la remorque pour espérer que ça avance.
Et sur ça, une version hybride va être quand même capable de remorquer 4 000 livres. C'est 1 000 livres de moins que la version régulière, mais il ne faut pas oublier que la quincaillerie à l'intérieur du véhicule a plus de poids. Mais on est très compétitif parce qu'on n'oublie pas que tout ce qui est Highlander hybride est à 3 500 livres et 5 000 livres pour la moyenne des autres véhicules dans le même segment.
Est-ce que ce véhicule-là se vend à un prix qui est abordable ou on est encore dans les 70, 80, 90?
Bon, là, ça, c'est la question classique, car on s'entend, les prix ne sont pas tous annoncés présentement au niveau du palissade. Mais c'est sûr que si on regarde au niveau d'un modèle 2025 qu'on avait, et tu le sais, au niveau de la dimension de ces véhicules-là, ben c'est un prix qui est un peu plus chérant. On avait un PDSF qui démarrait aux alentours de 53 000 $ là, avec tous les transports préparation. Mais là, je vous parle pas de financement. C'est sûr que je m'attends à une petite hausse par rapport à celui-ci, mais si on visait, mettons, un 55 000 de prix de départ, ça serait pas si pire et on resterait compétitif. Mais aujourd'hui, avec l'ajout de la technologie dans ces véhicules-là, à googler, là, allez voir l'intérieur, tant au niveau des écrans, tant au niveau des systèmes multimédia, non seulement le système de sécurité, quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans la portière à l'arrière, tu as maintenant un indicateur visuel. Si jamais la personne, elle arrête le véhicule, elle met ça à off et il y a une voiture qui s'en vient en parallèle. Donc, les passagers en arrière, la porte va être verrouillée, mais on va l'indiquer visuellement avec cet indicateur-là tout proche de la portière. Donc, ça reste quand même très intéressant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec de la sécurité, mais non seulement l'évolution, puis de l'ingéniosité aussi.
Mathieu Thomassin, on peut aller voir l'essai du nouveau Nissan Murano directement sur Question Auto sur YouTube?
Oui, ça va s'en venir, car c'est le véhicule que je roule cette semaine. Et le Murano, je vais être franc avec vous, avant, je le considérais pas trop, on n'en voyait pas, mais le nouveau m'a vraiment saisi tout de suite dans les premières minutes. Puis sais-tu avec quoi? Les sièges confortables, je me suis senti sur un nuage. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu du confort comme ça au premier départ. La cabine, elle est très silencieuse à l'intérieur, peu importe. Et voire même lorsqu'on va avoir des trous, je vous le dis, là, j'avais l'impression de rouler sur un tapis confort. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'espace cargo. Il y a quelques commandes, je ne suis pas nécessairement fan, mais le redesign pour 2025, ça fait du bien. Économie d'essence, on va devoir encore s'améliorer. Ceux-là qui vont s'ennuyer du V6 versus cette motorisation-là, turbo compressé, je dirais que les performances sont similaires, mais c'est sûr que ça n'a pas la même sonorité. Mais oui, on vous prépare un essai suppé sur la chaîne YouTube de Question Auto, le Facebook de Question Auto, et pour ceux-là qui aiment le grivois, le journaliste qui s'approche des bornes avec de l'humour douteux, TikTok, Question Auto.
Mathieu, je vais te souhaiter un bon congé de Pascal ce week-end.
Yes! Profitez-en, les petits amis, puis n'oubliez pas, hein, c'est le petit Jésus qu'on célèbre là, pendant ces 4 jours-là.
Ah, ben amen! Moi, je célèbre mon congé de Pascal en fin de semaine.
OK. Bon, c'est une vision de voir les choses. Moi, je vais manger du chocolat.
Salut, mon ami.
Salut, Matt.
Pas sûr qu'il l'a compris.
La deuxième fois, oui, mais ouais. Matt et ce Matt-là.
Elle n'est pas si drôle que ça, finalement.
Ben non, mais elle est drôle, mais là, à toutes les sauces...
Ouais, c'est vrai, ouais. Faudrait que je refasse mon répertoire.
Faudrait que tu la changes un peu, hey, tu la varies.
Restez avec nous autres parce qu'après la pause, je vous parle d'un sujet sensible, une histoire que j'ai vue passer sur un spotted à Sainte-Marie-de-Beauce. Un chevreuil qui est passé plus de 24 heures au sol, blessé, et il n'y a personne de la faune ou encore de la police qui est intervenu sur place pour abréger les souffrances de cet animal-là. On en parle avec Martin Bourget, notre chroniqueur chasse-pêche. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces circonstances-là? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'on peut se ramasser dans le trouble plus souvent qu'autrement si on décide d'y aller nous-mêmes abréger les souffrances. Donc, on lui en parle tout de suite après la pause. 13h28, on revient.
Marceau, le